Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à la radio du cinéma. Nous allons parler aujourd'hui du prix Jean Vigo. J'ai en face de moi donc Anne Gonan-Vaugeois. Bonjour Anne.
Bonjour.
Bienvenue à la radio du cinéma. Et son mari donc, Gérard Vaugeois. Bonjour Gérard.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous.
Alors, on va développer ce fameux prix Jean Vigo. Mais avant ça, je vais vous demander de vous présenter mutuellement. Anne, qui êtes-vous et que représentez-vous dans le milieu du cinéma surtout?
En fait, j'ai passé 25 ans de ma vie dans l'exploitation cinéma, c'est-à-dire je me suis occupée de deux cinémas, l'Épée de Bois rue Mouffetard à Paris et les Trois Luxembourg, Monsieur le Prince également à Paris. Donc je m'occupais de la gestion des salles et de la programmation surtout, ce qui n'est pas une mince affaire quand on est exploitant sur Paris. Ça c'est derrière moi, on a revendu nos salles en 2012. Et voilà, depuis, personnellement, je m'occupe que du prix Jean Vigo maintenant.
Alors, Gérard, vous avez un parcours dans le milieu du cinéma extrêmement important. On précisera tout de même que vous êtes chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Et vous avez été à la fois producteur, éditeur et distributeur de films d'auteur. Peut-être que vous pouvez compléter un petit peu mon propos dans la présentation, s'il vous plaît.
Je suis tombé dans le cinéma de manière un peu opportuniste, c'est-à-dire à travers le ciné-club. Et je défends beaucoup l'éducation populaire, et notamment celle-là. Le ciné-club est formateur. Je regrette que cette activité de ciné-club ait quasiment disparu. Enfin, et encore, il n'y a plus beaucoup de ciné-clubs. Il y avait 30 000 ciné-clubs dans les années 80, il en reste 250.
Pour détailler un peu un ciné-club, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on y vient chercher en fait ?
Alors un ciné-club, c'est un lieu associatif la plupart du temps, presque toujours. Ça peut être une antenne, mais ça c'est plus récent, ça peut être une antenne de la programmation d'une salle commerciale traditionnelle. Mm-hmm. Et un ciné-club, c'est un lieu où des amateurs de cinéma, de ce qu'on appelle des cinéphiles, se réunissent pour voir des films anciens qu'ils ne connaissent pas, ou un peu plus nouveaux qu'ils ne connaissent pas non plus, ou bien qu'ils ont déjà vus et qu'ils veulent partager avec les autres. Donc le ciné-club, c'est un partage, c'est un moment où on est ensemble,
entre passionnés,
on est ensemble, et qui se termine toujours par une discussion. On discute, on s'engueule, on est d'accord, on n'est pas d'accord.
On débat, et
c'est un exercice démocratique. Et je suis passé du ciné-club à autre chose. J'ai démarré par la programmation de salles. Et puis, j'ai été critique de cinéma pendant très longtemps. J'ai d'ailleurs travaillé pendant 10 ans à France Culture, dans deux émissions très connues qui étaient Le Pont des Arts et Le Panorama.
Alors, on va parler de ce prix Jean Vigo. Gérard, vous en êtes le président de l'association, qui s'appelle donc le prix Jean Vigo. Mmh. Vous êtes également en fait le président du jury. Mmh. Votre épouse donc Anne est la déléguée générale de ce prix Jean Vigo. Quelles sont les valeurs autour de ce prix?
Alors, ses fondateurs ont défini un peu cette mission. C'est un prix qui a été imaginé par un universitaire, mmh, historien et critique de cinéma, qui s'appelle Armand-Jean Colliez, qui était très proche d'un homme qui s'appelle Claude Aveline, qui lui-même était très proche de Jean Vigo, parce qu'ils s'étaient connus au sanatorium lorsqu'ils étaient jeunes adultes, même un peu avant d'être jeunes adultes. Aveline et Vigo, Armand-Jean Colliez a essayé de convaincre Aveline de créer ce prix, qui venait un peu, non pas en contradiction, mais en complément de ce qu'était le prix de Luc. Le prix Louis de Luc, qui date de 1937, est un prix qui consacre une œuvre. Et Aveline a considéré qu'il y a une œuvre chez Vigo, certes, et ça lui est venu naturellement à l'esprit de faire quelque chose qui exprime cette jeunesse, cette ambition primitive de devenir cinéaste, cette ferveur, cette foi, toute qualité que portait Vigo. Vigo, c'était un homme de passion. Et le prix Vigo, c'est un petit peu ça. On nous demande, et on essaie de respecter ça, de trouver des gens plutôt jeunes, il y a des petites dérogations, et qui ont cette même foi, cette même envie, cette même passion pour cet art qu'ils ont envie d'exercer. Donc c'est comme cela qu'on a défini le prix, c'est un pari sur l'avenir. un auteur en devenir, c'est ce que nous supposons de lui, à travers les films qu'il nous propose.
On va les citer, ces prix. Donc, le premier prix, le Vigo d'honneur 2024, a été distribué à Elia Souleymane.
C'est un réalisateur qui a choisi d'aborder ses problèmes existentiels, familiaux ou politiques d'une façon décalée, voire poétique. Mmh. On a voulu apporter notre solidarité au peuple palestinien en attribuant un prix à Elia Souleymane.
Dans son cinéma, je trouve qu'il y a un peu de Jacques Tati dans une façon d'appréhender un peu un cinéma, certes très moderne, mais vous l'avez justement évoqué, c'est quelque chose de très poétique. C'est vraiment, c'est un cinéma qui malheureusement se fait de plus en plus rare, mais qui est extrêmement précieux. Et je pense que le prix Jean Vigo vient souligner ce narratif bien dédié à un cinéma qui emprunte des chemins et des voies un peu différentes.
C'est pas cette année où ça a été le plus marquant, mais il y a eu des résultats les années précédentes où effectivement les prix sont allés à un cinéma plus radical, on va dire. Alors que le palmarès cette année est peut-être plus facile pour le public. Hein, mais ce n'est pas toujours le cas.
D'accord.
Concernant Elia Souleymane, oui, c'est une façon pour lui très particulière de vivre sa douleur. Il est complètement raccord avec ses films, c'est-à-dire qu'il n'a pas de propos durs et c'est un gentleman.
Ouais. Et qui se relie très, très bien avec le cinéma de Vigo, dans l'ironie, presque le gag. Vigo a fait deux films qui sont réjouissants à plus d'un égard. À propos de Nice, qui est un film un peu canulardesque comme Le ballon avec Arafat. Et Zéro de conduite, qui est une espèce de révolte enfantine qui ressuscite l'anarchie du siècle précédent. Parfois, on a couronné des cinéastes qui faisaient des films de très grande qualité, on ne les couronnait pas parce qu'ils étaient dans cette filiation directe. Alors que moi, je trouve que Elia Souleymane, c'est l'un de ceux qui hérite le plus de ça. Est-ce qu'il le fait en le sachant? Eh bien ça, moi, je ne sais pas.
D'accord. Anne, on va parler en fait du prix court-métrage, donc le prix Jean Vigo du court-métrage, pour un film qui s'appelle donc Car Wash, d'accord. Donc c'est une fratrie. En l'occurrence, la réalisatrice Laïs de Caster, donc, filme sa sœur, Laura de Caster. Ça se passe dans un espace de lavage pour les voitures. C'est une sorte de huis clos dans ce lieu. Ce film s'est réalisé en 2 heures.
Oui, alors il y a une complicité évidente entre la réalisatrice et sa sœur, qui est plus jeune. Elles ont une liberté de parole, une liberté de ton, et la réalisatrice est très amusée par sa sœur. Et donc, elles ont décidé d'en faire des petits bouts de leur vie, raconter des morceaux de vie. D'ailleurs, il y a un autre des courts-métrages qui s'appelle « Soir et mousse », où elles sont toutes les deux dans leur bain, face à face, et elles se racontent, elles se confient, se racontent des histoires. C'est toujours assez cocasse, et surtout la liberté de ton. Parce que les courts-métrages de Laïs de Caster, pour le moment, ce sont des documentaires. D'ailleurs, elle prépare un long métrage sur le judo. Mais oui, il y a cette complicité. Elles sont une bande de filles, en fait. Et donc, parmi tous les courts-métrages qu'on a vus, hein, ce n'était pas la première fois qu'on voyait des courts-métrages de Laïs, il y a toujours ça, cette espèce de sororité, de curiosité, de complicité entre femmes, entre filles, parce qu'elles sont très jeunes. C'est vrai que les femmes, en général, ont un rapport à l'intime très, très direct. Voilà.
Dans ses remerciements, cette jeune femme a dit tout ce qu'elle devait à une cinéaste qui s'appelle Sophie Fillière, qui a été longtemps membre de notre jury, et de son film Les filles et les chiens, pour lequel elle avait obtenu le prix Vigo, je parle de Sophie, au début des années 90, 92, 93. Des filles et des chiens, c'est une comédienne et la sœur de la cinéaste. C'est un petit peu le même type de provocation. Bon, on rit beaucoup. Des filles et des chiens, c'est un long travelling de face. Là, on est plutôt figé sur le décor du car wash. C'est format stand-up, en quelque sorte. mais c'est le même esprit.
Où se situe ce prix véritablement dans l'univers du cinéma ?
Dans le cinéma, il y a toujours les gens de la profession, et puis il y a toujours ceux qui sont en marge de la profession et qui voudraient y mettre un pied. Donc ce sont les jeunes cinéastes dont nous parlions tout à l'heure. Des jeunes cinéastes, il y en a donc toujours eu. La première incursion très visible de ce principe de défendre des nouveaux venus date de la fin des années 50. Les premières années du prix Jean Vigo, on peut dire que ce sont des consécrations justifiées, mais qui ne sont pas révolutionnaires. Alors que la nouvelle vague, c'est quand même quelque chose qui a bousculé énormément les us et coutumes de la profession. Parce qu'on y trouve, dans le palmarès du prix, Alain Resnais et Chris Marker, ensuite Claude Chabrol, ensuite Jean-Luc Godard, ensuite Maurice Pialat, et si on va plus loin dans le temps, des héritiers directs de la Nouvelle Vague, Luc Moulet, Jacques Rosier. Alors, il y en a d'autres qui étaient sur un créneau un tout petit peu différent, comme par exemple Robert Henricot, comme Édouard Luntz. D'ailleurs, la photo de notre diplôme de l'année réunit autour de Jean Cocteau, Godard et Luntz. Le prix Jean Vigo étant à Paris sur l'avenir, on ne touche pas le gros lot tout de suite.
Oui, bien sûr.
On n'est pas peu fiers d'avoir découvert Alain Guiraudy, Bruno Dumont, Albert Serra, Alice Diop. Ce sont des réalisateurs absolument formidables. Alors, il n'y a que ces quatre noms qui me viennent à l'esprit.
Olivier
là, tout Assayas. De suite. Voilà, c'est une particularité, en fait, de ce prix. Voilà. Oui.
C'est le Salon des Indépendants qui a ignoré les impressionnistes qui sont quand même arrivés après. C'est le Salon des Indépendants du cinéma. On expose les gens qui vont être les grands cinéastes de demain.
Alors, Anne-Toc, que vous avez le micro, on va parler donc de ce prix long métrage Jean Vigo 2024, qui a été donc attribué à Louise Courvoisier pour un film qui s'appelle Vingt Dieux. Alors, le film Vingt Dieux, évidemment, c'est un film particulier puisque les acteurs ne sont pas des acteurs professionnels. Je trouve que ce film, clairement, c'est un effet de loupe sur la vie dans le milieu rural, mais sans filtre. Une fable, en fait, qui est racontée de manière très cash, très concrète.
Oui, c'est brut. Et ce qui compte aussi, c'est la sincérité du propos. On sent vraiment que la réalisatrice raconte son histoire avec beaucoup d'authenticité, de spontanéité. Je sais, apparemment, quand on regarde le générique, on se rend compte que c'est un travail en famille. Il y a beaucoup de personnes de la famille qui ont travaillé sur ce film. Et ça se sent à l'écran, on sent que tout le monde est en confiance. Une liberté totale dans les propos pour concrétiser son histoire.
C'est pas non plus un film qui, adaptant des faits réels à une fiction, devient un truc à la manière de. C'est un film qui a soigneusement utilisé le réel pour en faire une fiction qui coule toute seule. Tout a l'air d'être directement vécu sous nos yeux. Et c'est d'une grande modestie. Le sujet n'est pas un objet de réflexion particulière au niveau du jury. Le grand théoricien du cinéma, André Bazin, disait que le sujet, c'était le diable. Au diable, le sujet. Le sujet n'est pas le film. Ce que nous regardons, nous, c'est la manière dont le film est fait, c'est la manière dont il avance, c'est la manière dont les comédiens traitent leurs personnages, sans boursoufler ce qui caractérise ces personnages. Il n'y a rien de tout ça. C'est un film modeste qui court tout seul, qui arrive au bout de son chemin.
C'est-à-dire un espèce de naturalisme.
Les non-professionnels ne caricaturent pas les professionnels. Et ils n'essaient pas de jouer aux comédiens qu'ils ne sont pas. C'est pas un documentaire, on n'est pas en train de filmer des choses en situation. La direction d'acteur est très très forte. Elle est maligne, la gamine, si je puis dire.
Honnêtement, le naturel est d'une puissance dramatique absolue. On est vraiment dans l'action, on a l'impression qu'on est pratiquement dans le décor et dans la scène.
Les comédiens essaient de s'incarner eux-mêes et non pas incarner quelqu'un qu'ils ne sont pas. Ils ne se prennent pas pour un autre.
Vous l'aurez compris, on aime tous les trois ce film, Vin Dieu. On vous recommande évidemment chaleureusement le film Vin Dieu, premier long métrage hein, de Louise Courvoisier. Voilà, c'est un film qui sortira de mémoire
le 11 décembre.
Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter au prix Jean Vigo pour la 74e édition? Est-ce qu'il y aura des choses, des petits points de détail qui vont évoluer? Est-ce qu'il y a des, je sais pas, peut-être des points qui vont nous surprendre? Faites-nous rêver pour teaser l'année prochaine.
Alors, teaser l'année prochaine, on change de lieu puisque...
Ah, c'était jusqu'à présent au centre Georges Pompidou.
Voilà, le centre Pompidou ferme pour travaux.
Voilà.
On ne sait pas combien de temps, ils annoncent 3 ans, mais ça peut être 4, 5,
d'accord,
6, voilà. Donc, nous allons atterrir dans un nouveau lieu, mais bon, on a de bon espoir d'être dans un lieu prestigieux.
Ah.
Nous essayons de développer des partenariats. Cette année, nous avons réussi à avoir le statut d'association d'intérêt général, ce qui va nous faciliter la recherche de partenariats. Parce que notre idée, quand même, c'est de doter les lauréats, qui sont, comme vous avez remarqué hier, parfois très jeunes, et qu'un peu d'aide financière, ça ne peut pas faire de mal. Et puis, nous avons l'intention d'accompagner davantage les films en province. Donc, nous allons organiser des soirées. Et certainement reprendre en province et en banlieue les rencontres que nous avions mis en place il y a quelques années qui permettaient à deux anciens lauréats de discuter de leur...
De masterclass,
ouais,
avec
ça,
des anciens distingués.
Voilà.
Donc pour partager...
Masterclass à deux.
Et l'idée, c'est de partager une passion, comme on parlait de ciné-club tout à l'heure. Finalement, ça serait un peu de réinventer un peu le modèle du ciné-club, un peu version 2.0, via le prix Jean Vigo. C'est un petit peu ça, Gérard, le projet?
Oui,
ou,
oui.
Ces deux cinéastes qui se parlent de leur propre cinéma, mm-hmm, et qui parlent aussi de celui de l'autre. C'est un vrai croisement d'opinions, de souvenirs, de ressentis, et on donne la parole au public pour quelques temps.
D'accord.
Mais le débat n'est pas la raison majeure du dispositif.
Bon.
On a aussi une ambition, c'est de créer un lieu de résidence. On va peu avancer avec le Moulin d'Andé là-dessus.
Merci infiniment pour cet entretien. C'était un vrai bonheur de partager
avec
vous, ce moment auprès du prix Jean Vigo 2024. Et donc, on se donne d'ores et déjà rendez-vous pour l'édition 2025.
Avec plaisir.
Alors, il y a une tradition à la radio du cinéma. Et je vais vous demander, Anne, de me donner donc, dans l'ordre, votre film préféré. Ça sera également valable donc, pour Gérard. Votre film préféré, votre musique de film préférée. Et votre réplique préférée?
Alors, mon film préféré, c'est Georgia d'Arthur Penn, que j'ai eu la chance de revoir cette année à la Cinémathèque française, puisqu'il y a eu un cycle Arthur Penn. Et ce qui m'avait frappé dans ce film, c'est là aussi cette liberté, le parcours d'une femme libre qui n'est pas toujours cohérente avec ses histoires d'amour et n'est pas toujours ouverte à l'amour des autres. Enfin bon, j'avais trouvé le film formidable et le revoir, ça m'a fait très plaisir et je l'ai fait découvrir à ma fille donc il y a quelques mois.
Good evening, kiddos.
All the boys love Georgia, but Georgia loved only three.
My days as a virgin are drawing to a close.
Ma musique préférée, la formidable musique écrite par Georges Delerue dans Le Mépris de Jean-Luc Godard. C'est une musique encore à l'heure actuelle qui me ferait presque tirer les larmes aux yeux, tellement c'est beau. Et ma réplique, c'est dans le même film, c'est Brigitte Bardot dans le lit qui s'adresse à Piccoli et qui lui dit « Et mes fesses, tu les trouves jolies mes fesses ?» Voilà, ça m'a beaucoup marqué aussi.
Tu vois mon derrière
dans la
glace?
Oui.
Tu trouves
jolies
mes fesses?
Oui. Très.
Gérard, c'est à vous, on vous écoute.
Alors, mon film préféré, c'est le film pour moi qui exprime ce que je découvrais en découvrant le cinéma. C'est le film par lequel tout a commencé. c'est Nosferatu le vampire, c'est un film de 1919, une adaptation très libre du roman de Bram Stoker. C'est un film muet, en noir et blanc, évidemment. C'est un film de vampire, mais c'est aussi beaucoup plus que tout ça. C'est un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma mondial. Nosferatu le vampire. J'étais vierge de toute connaissance de cette génération de films, de ce genre de films, d'où qu'il soit, et ça a été un choc émotionnel très fort. Pour ce qui concerne la musique, c'est encore sur des critères semblables que je réagis. Même la musique que je préfère, c'est celle qui est une adaptation partielle de la cantate de Serge Prokofiev pour Alexandre Nevsky. Alors la cantate, c'est une chose, la partition de Prokofiev pour le film est totalement adaptée au film. Il l'a écrite spécifiquement pour, même en reprenant les éléments de la cantate, c'est pas exactement la même musique. C'est un film de Serge Meyer-Lewis Eisenstein qui date du milieu des années 30, je sais plus, c'est 34 ou 35. Et c'est un film magnifique, c'est un film épique. C'est un film sur la lutte contre l'oppression. C'est un très 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 beau film, d'une grande puissance
émotionnelle
et esthétique. Et alors la réplique que je préfère, parce qu'elle peut s'exprimer dans n'importe quelle situation, c'est celle d'Anna Karina qui déambule sur une plage dans Pierrot le Fou. Elle répète sans fin, comme une antienne, « Qu'est-ce que je peux faire ?» Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire.
Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire.
Non, j'écris.
Cette espèce de répétition à l'infini, c'est absolument génial.
Action.
Gérard, laisse tomber ta blanquette. Allez, viens, on va écouter la radio du cinéma.
Faut que je coupe le feu, là. Sinon, elle va être trop cuite. Mais allons-y, écoutons la radio du cinéma, bien sûr.